Chapitre 25e. Yakout, audace des Français, cousinerie philanthrope, reconnaissance, tentative périlleuse, bête féroce, utilité de la pratique, mort d'homme, Ducasse retrouvé. Assis sur un divan vieux et crasseux, et fumant, ou du moins tenant à la main une pipe allumée, Yakout, lorsque nous entrâmes, était en grande conférence au moyen d'un interprète avec le capitaine Cousinerie. Notre apparition inattendue produisit un véritable coup de théâtre. Yakout pâlit, et Cousinerie se précipita vers nous en s'écriant d'un air joyeux et triomphant « Les voici, ce sont eux. Je savais bien moi que ce grenadin me trompait en m'assurant qu'il ignorait ce qu'ils étaient devenus. » Comme nous étions tous les cinq, grâce à notre naufrage, aussi mal vêtus les uns que les autres, notre libérateur nous demanda aussitôt quel était le capitaine de la Doris. Monsieur Liard se présenta et se fit connaître. « Ma foi, mon cher collègue, s'écria Cousinerie, charmé de vous trouver vivant. Je craignais, votre devoir vous ordonnant de n'abandonner votre navire que le dernier de tous, que vous n'eussiez succombé. Grâce à Dieu, je m'étais trompé. » À ce reproche involontaire et si direct, M. Liard rougit et se hâta de changer de conversation. « Capitaine, dit-il, recevez tous nos remerciements les plus sincères pour le généreux appui que vous nous portez. Sans vous, c'en était fait de nous. On devait nous couper la tête aujourd'hui. »« Vous coupez la tête ? » s'écria Cousinerie furieux. « Qu'est-ce qui coupe comme ça les têtes ici ? Ce macaque de Yakout ? Pardieu, je suis charmé de ce que vous m'apprenez là. Je vais me donner le plaisir de faire empaler cet aimable mignon. Ça procurera un moment de distraction à mon équipage. » Et ça servira d'exemple au successeur que l'iman de Mascate. Nous ne demandons pas tant, capitaine, que nous nous permettent seulement de nous embarquer à bord de votre navire. Parbleu, je voudrais bien voir que quelqu'un s'y opposa, interrompit Cousinerie. Savez-vous ce que je déclarai à Yakout lorsque vous êtes arrivé? Qu'il était mon prisonnier et qu'il eût à me suivre. Enfin, puisque vous voilà, et que vous ne tenez pas absolument à ce qu'il soit empalé, nous pouvons nous en aller. Oh, avec le plus grand plaisir. « Attendez un instant. Je veux auparavant présenter mes respects à ce faquin de Yakout. » Cousinerie, se tournant alors vers l'interprète, lui ordonna de traduire mot à mot ce qu'il allait dire au gouverneur. Puis, cette recommandation faite, il prononça tout d'une haleine le discours le plus pittoresque et le plus abominable que l'on puisse s'imaginer. Je parlais et je comprenais assez l'arabe pour m'apercevoir que l'interprète adoucissait, de façon à en changer un peu le sens, le beau morceau d'éloquence confié à sa loyauté. Toutefois, comme mon plus vif désir était d'abandonner au plus vite Zanzibar, je ne jugeais pas à propos de révéler cette infidélité à Cousinerie, je préférais m'en aller avec lui. « Eh bien, capitaine, lui dit Fignolet lorsque nous nous embarquâmes dans les deux canots du Tigre du Bengale qui nous attendait sur la plage, j'espère que je me suis acquitté un peu proprement de ma commission. C'est moi qui ai découvert la prison où ces messieurs étaient enfermés. Le fait est, petit, que la peur de Maître Filin, le bout de corde, t'a fait faire merveille, n'importe. Demande-moi ce que tu voudras, et foi de Cousinerie, si ça peut s'accorder, je ne te refuserai pas. C'est pour de bon que vous parlez, capitaine, s'écria Fignolet en ouvrant les yeux d'une façon démesurée. Vous ne vous gossez pas de moi? Allons, petit, parle vite. Eh bien, capitaine, je voudrais... Fignolet hésita. « Je voudrais avoir triple ration pendant 2 jours. »« Accordé, » dit le capitaine en riant. « Accordé ?» répéta Fignolet, dont l'émotion et la joie empourprèrent les joues. « Ah, Dieu de Dieu, j'y suis-y content. Je vais donc manger une fois dans ma vie presque mon sou. » 5 minutes plus tard, les deux embarcations voguaient à toute rame, se dirigeant vers le Tigre du Bengale, charmant brique, montant 16 canons, que nous apercevions devant nous se balançant gracieusement à 1/2 mille de distance de la plage. Préoccupé jusqu'alors par l'idée de quitter Zanzibar au plus vite, je ne m'étais pas fait reconnaître par le capitaine Cousinerie. Je ne lui adressais la parole qu'une fois que je me trouvais en sûreté dans le canot. « Vraiment, mon cher ami, je ne vous aurais pas reconnu, » me dit-il en me serrant convulsivement les mains à plusieurs reprises. « Combien vous êtes changé ? Je vous avais quitté presque un enfant et je vous retrouve un homme. » Pendant le court trajet de la plage au Tigre du Bengale, les questions que l'on nous adressa sur le naufrage de la Doris furent si nombreuses qu'il nous fut impossible d'y répondre. Nous remîmes les explications à notre arrivée à bord. « Comment donc se fait-il, capitaine ? » demandai-je à Cousinerie en mettant le pied sur le pont et en apercevant un nombreux équipage, « que votre navire soit armé en guerre et porte 16 canons. Parbleu, cela n'a rien d'étonnant. Voudriez-vous me voir chasser les Anglais avec 10 hommes et un petit caboteur? Mais ne sommes-nous pas en paix, capitaine?
Ah, c'est vrai, vous ignorez la nouvelle.
Eh bien, heureusement, non, mon cher Louis, nous ne sommes plus en paix. Nous avons appris pendant votre absence la rupture du traité d'Amiens, et les hostilités ont recommencé avec plus de vigueur que jamais. C'est même par suite d'une rencontre que j'ai eue ces jours derniers avec un navire anglais, que j'ai capturé et dirigé vers l'île de France, que l'idée m'est venue, me trouvant près de Zanzibar, d'atterrir afin de réparer mes avaries.
Alors, 3 hurrahs pour l'anglais qui vous a causé ces avaries, capitaine, car sans votre arrivée ici, nous passions un mauvais moment.
À propos, racontez-moi donc en détail et votre naufrage et vos aventures.
Volontiers. D'abord, nous mourrons de faim.
Ah, c'est juste, dit en riant Cousinerie. Descendez dans la chambre. Je vais vous faire servir à déjeuner. 5 minutes plus tard, attablé avec le capitaine Liard, tandis que nos hommes étaient servis à l'avant, je faisais à mon ancien chef le récit de notre catastrophe. La fuite de M. Liard dans le canot, son abandon de la Doris, me donnèrent assez de mal à raconter. Mais cependant, en insistant sur l'urgence qu'il y avait à aller chercher des secours, sur l'impossibilité de construire un radeau, sur la crainte de voir les nègres s'emparer du canot, crainte qui nous avait empêchés de retourner à bord, je parvins à franchir ce passage difficile de ma narration sans que le capitaine Liard eût à rougir devant son collègue. Mon récit terminé, et il dura aussi longtemps que le repas, c'est-à-dire 2 heures, je remarquai que le capitaine Cousinerie était devenu tout soucieux. J'attribuais naturellement sa tristesse au lugubre tableau que j'achevais de faire passer sous ses yeux. Je me trompais.
« Tout ce que vous venez de me raconter, me dit-il, n'est pas positivement gai. Mais enfin, comme il n'y a plus à y revenir, n'en parlons plus. Nous ne pouvons rien pour les morts. Occupons-nous des vivants. Savez-vous de quel pays est natif ce malheureux Ducasse, qui s'est si sottement perdu dans la forêt que vous avez traversée ?
Oui, capitaine, il est de Bordeaux.
Ah, de Bordeaux, répéta Cousinerie en réfléchissant. Vous êtes bien sûr.
Parfaitement sûr, capitaine.
Ma réponse parut causer une assez vive impression à Cousinerie. Pendant quelques secondes, son bras appuyé sur la table et sa tête sur sa main, il parut absorbé par de graves pensées. Enfin, m'adressant de nouveau la parole, « Ce Ducasse ne vous a-t-il jamais parlé de son frère aîné ?» me demanda-t-il.
« Oui, souvent. Il tirait même assez de vanité de cette parenté, car son frère est capitaine au long cours et commande à présent un 3-mâts qui fait le voyage des Antilles. »
« Allons, il n'y a pas à en douter, c'est bien cela, » s'écria Cousinerie. « Sachez, mon cher Garneret, que ce Ducasse, je parle du capitaine au long cours, a été mon ancien matelot et m'a rendu dans le temps un petit service que je ne puis guère oublier. Il s'est jeté entre une hache anglaise et moi au moment où cette hache allait me fendre la tête, ce qui lui a valu d'avoir l'épaule à moitié coupée. « Eh bien, capitaine, que concluez-vous de cela ?»
Je conclus que c'est diabolique de savoir que le frère de celui à qui je dois en ce moment l'honneur de commander un joli et fringant corsaire de 16 canons se trouve exposé dans une forêt aux horreurs de la faim et aux attaques des bêtes. À propos, savez-vous si les 2 frères Ducasse étaient bien ensemble ?
Très bien, capitaine, ils s'aimaient beaucoup.
Alors ça devient de plus en plus intéressant. Je ne puis abandonner ce garçon.
Hélas, il est malheureusement bien à craindre qu'il ait succombé.
C'est possible. « Mais comme rien ne me le prouve, je ne puis me dispenser de tenter quelque chose en sa faveur. Ça va me faire perdre un temps précieux. Cet animal de pierre, c'est le nom du capitaine au long cours, avait bien besoin aussi de me sauver la vie. Ah, j'oubliais. Depuis combien de jours, Ducasse, est-il dans la forêt ?»«
Depuis aujourd'hui 5 jours, capitaine.
5 jours au régime des racines. Il est probable qu'il a dû mourir de faim. À moins, toutefois, qu'il n'ait servi lui-même de déjeuner à quelques tigres ou à quelques serpents. Mais au total, comme il peut se faire que les racines conviennent à son estomac, que les tigres l'aient trouvé trop maigre pour leur appétit, et qu'il soit encore vivant, je dois et je veux envoyer à sa recherche.
« Oh, capitaine ! » m'écriai-je, ravi de joie à l'idée de retrouver notre malheureux compagnon. « Ce serait là une bien bonne action. »
« Je me moque pas mal des bonnes actions, moi. » s'écria Cousinerie. « C'est une dette que je dois et que je paye, pas autre chose. Maudit Pierre, bah !» Il avait bien besoin de se mêler de mes affaires.
Mais ne perdons pas de temps et agissons. Voulez-vous, Garneret, vous charger de conduire l'expédition que je vais envoyer à la recherche de Ducasse ?»«
De tout mon cœur, capitaine. » »«
C'est qu'il faudrait partir de suite. J'ai mangé pour 3 jours et je suis prêt. » »« Eh bien, voilà qui est entendu. Je m'en vais vous choisir vos hommes. » Une demi-heure après cette conversation, je m'embarquai dans un des canots du Tigre du Bengale avec 10 des meilleurs matelots de ce corsaire. 3 heures plus tard, nous touchions terre à l'endroit même où 2 jours auparavant nous avions retrouvé Combalot. Le capitaine Cousinerie, en me disant qu'il allait me choisir mes hommes, ne m'avait pas trompé, ma petite troupe était composée de l'élite de son équipage. Au reste, l'idée qu'ils allaient au secours d'un camarade eût seul suffi pour faire braver à ses hommes toutes les fatigues et tous les dangers. Inutile d'ajouter que nous étions munis d'abondantes provisions de bouche et de munitions de guerre. Chaque matelot, armé d'une hache, d'un fusil et d'une paire de pistolets, portait 30 cartouches. Avec de pareils éléments d'attaque et de défense, nous n'avions pas grand-chose à craindre de la part des tigres et des serpents. Après avoir pris terre, nous laissâmes le canot sous la garde des Arabes de la côte, ainsi que nous en étions convenus avec le capitaine, qui devait l'envoyer chercher le lendemain, et nous nous mîmes de suite en route. Comme la journée était déjà avancée, la nuit nous surprit après une marche de 2 lieues au plus. Nous bivouaquâmes dans un petit village arabe, et le lendemain, au point du jour, après avoir gagé un guide, nous reprîmes notre course. À la fin de la journée suivante, un peu avant le coucher du soleil, nous atteignîmes une bourgade située à 1 lieue seulement de la forêt, et nous y passâmes la nuit. Toutefois, avant de songer à nous reposer, nous interrogeâmes un à un tous les Arabes pour tâcher d'obtenir quelques renseignements sur le sort du malheureux Ducasse. Cette enquête n'aboutit à aucun résultat. Personne n'avait entendu parler de notre pauvre camarade. Levé le lendemain avant le soleil, nous allions nous remettre en route lorsque notre guide vint nous réclamer le salaire qui lui était dû en nous déclarant qu'il ne voulait pas nous accompagner plus loin. En vain essayâmes-nous de vaincre sa détermination. Ni menace, ni prière, ni promesse, rien n'y fit, il resta inébranlable dans son refus. « À n'importe quel prix, nous dit-il, il ne consentirait à nous suivre dans l'exploration que nous allons tenter, tant la mystérieuse et redoutable forêt lui inspirait une crainte insurmontable. En vain lui fîmes-nous observer encore que nous étions assez nombreux et trop bien armés pour avoir à craindre un danger. Aucun raisonnement ne put vaincre son obstination. « Monsieur, me dit un des matelots qui m'accompagnait, un Espagnol de 35 à 37 ans, nommé Diaz, qui avait longtemps séjourné dans l'Inde et parlait assez bien arabe, vous êtes trop bon d'insister auprès de ce chien. Qu'avons-nous besoin de lui et de quelle utilité pourrait nous être sa présence? J'ai, à la suite d'un accident dont je ne vous ferai pas le récit et qui me força, il y a de cela quelques années, à déserter mon navire et à m'enfoncer dans l'intérieur des terres. J'ai, dis-je, mené pendant longtemps la vie de boucanier, et je puis me vanter de connaître, aussi bien comme au monde, les mœurs des animaux et les mystères des bois. Fiez-vous-en à mon expérience. Je vous serai 100 fois plus utile que ne pourrait l'être cet arabe peureux et imbécile. Je réponds de tout. » Le matelot Diaz, qui, soit dit en passant, avait de fort bonnes manières, et dont nous ne connûmes jamais l'histoire, semblait si sûr de son fait que je n'hésitais plus à congédier notre guide arabe. Je regrettai même mes instances auprès de ce dernier, car son obstination à les repousser avait fini par jeter, sinon un découragement complet, du moins une certaine indécision dans l'esprit des hommes de l'expédition. Aussi ne fus-je pas fâché, une fois que nous eûmes abandonné la bourgade, d'entendre Diaz soutenir avec une conviction qui paraissait profonde que jamais, à sa connaissance, les animaux féroces n'avaient pris l'initiative de l'attaque envers les hommes. Mes matelots me parurent accueillir cette assurance avec un certain plaisir. Toutefois, lorsque 2 heures plus tard, c'est-à-dire un peu après le lever du soleil, nous aperçûmes, à quelques centaines de pas devant nous, se dresser la masse sombre et épaisse de la forêt, je compris, en voyant ma petite troupe ralentir le pas et jeter des regards effarés devant elle, que les sottes craintes manifestées par notre guide arabe avaient produit sur le moral de mes hommes un mauvais effet. J'eus l'air de ne pas m'en apercevoir, et je me contentais d'accélérer ma marche. Au reste, cette indécision, comme je m'y attendais, dura peu. Une fois que notre petite troupe eut franchi la lisière de la forêt, l'espèce de fantasmagorie qui l'impressionnait disparut à ses yeux. Nous ne songeâmes plus qu'au malheureux Ducasse. Rien n'était, après tout, moins propre à inspirer la crainte, que l'admirable spectacle que nous avions devant nous, car il est impossible de se faire une idée, même approximative, de la magnificence des forêts vierges de l'Afrique à leur réveil. À peine le soleil se montre-t-il à l'horizon que le silence immense et imposant de la nuit fait place à un hymne étrange et saisissant. Ramage d'oiseaux, bruissement d'insectes, frôlement de serpents et d'iguanes, élan de tigres, course rapide de daims et de chevreuils, branches d'arbres détendues par l'humidité et se tordant, semblables à des reptiles, sous les ardentes caresses du soleil, ce sont partout des bruits bizarres, confus, divers, des murmures plaintifs et voluptueux, dont on ne comprend pas les causes et qui, réglés pour ainsi dire par un maestro invisible, se fondent cependant en un ensemble parfait et forment un orchestre divin. Des arbres gigantesques, dont les premières branches avides de sève se sont inclinées vers le sol et ont fini par y prendre racine et par produire autant de nouveaux troncs, offrent au regard une prodigieuse diversité de formes dans leur pittoresque et fantastique grandeur. Leurs feuilles larges et épaisses, pointillées par la rosée de la nuit, ressemblent à d'inestimables écrins de diamants et forment une voûte féerique et éblouissante qui dépasse en éclat et en magnificence les descriptions les plus outrées des conteurs orientaux. Le sol, garanti par cette voûte du contact dévorant du soleil, est recouvert par un gazon épais d'un vert d'émeraude. Ce sol, composé de détritus provenant du règne animal et végétal, présente une grande élasticité, ne reçoit aucune empreinte, ne rend aucun son et procure aux piétons une illusion charmante. On croit marcher sur un interminable tapis de velours. Arrivé à l'endroit où nous avions perdu Ducasse, nous fatiguions en vain depuis plus d'une heure les échos de la forêt de son nom mille fois répété, soit isolément, soit en chœur, lorsque le matelot Diaz abandonna la tête de la troupe pour venir me trouver. « Lieutenant, me dit-il, tous ces cris-là, si je ne me trompe, ne sont bons qu'à effrayer les oiseaux, mais ne nous aideront en rien à retrouver Ducasse. Si vous voulez que notre expédition puisse avoir quelque chance de succès, il faut absolument que nous abandonnions le sentier battu où nous sommes et que nous pénétrions dans l'intérieur de la forêt. Je ne m'y oppose pas, Diaz, mais si nous allions nous perdre nous-mêmes... Qu'importe, lieutenant, nous sommes en nombre, nous avons des armes, des munitions et des vivres. La faim ne peut nous atteindre. Et puis au reste, ne craignez rien, je vous réponds que nous ne nous égarerons pas. La mousse étendue sur les troncs des arbres est pour un œil exercé un indice certain. Cette mousse, qui indique le côté du nord, est aussi infaillible à consulter qu'une boussole. Je me charge de vous ramener, dès que vous me l'ordonnerez, à l'endroit précis du sentier où nous nous trouvons en ce moment. Ma foi, Diaz, j'ai toute confiance en vous. Faites comme vous l'entendrez. Diaz, fort de mon assentiment, s'en fut retrouver ses camarades et leur proposa d'entrer plus avant dans la forêt. Je dois ajouter, à la louange de ceux-ci, qu'ils acceptèrent avec empressement cette proposition, et que, le moment de la panique passé, l'espoir de secourir ou sauver Ducasse parut un mobile tout-puissant auprès d'eux. Dans aucune autre classe de la société, on ne trouve un sentiment de camaraderie plus prononcé que celui qui existe dans le cœur des matelots. Diaz, avant d'abandonner le sentier que nous parcourions, examina la position et la hauteur du soleil, puis, allumant ensuite une cigarette, « Allons, mes amis, nous dit-il, suivez-moi. Que le ciel mette sur mon chemin un indice, quelque léger qu'il soit, du passage de Ducasse, et je vous jure que, mort ou vivant, je le retrouverai. » Stimulé par ces paroles, nous entrâmes avec enthousiasme dans la forêt. Au premier pas que je fis, je compris sans peine comment Ducasse avait pu se perdre malgré nos cris, car la végétation qui nous enveloppait, pour ainsi dire, dans ses liens de verdure, était si épaisse, si luxuriante, si inextricable, qu'il était impossible de voir à deux pas devant soi. À chaque instant, nous disparaissions, comme si c'eût été un sable mouvant, dans de hautes touffes d'herbe qui semblaient s'enfoncer sous nos pieds. Des lianes nombreuses et hérissées d'épines nous déchiraient le visage et les mains, s'enroulaient comme des serpents autour de nous et nous forçaient, pour nous dégager de leurs étreintes, à de brusques mouvements qui nous empêchaient d'observer et la direction que nous suivions et la position du sentier que nous venions d'abandonner. Les haches dont nous nous étions munis apportaient heureusement un grand secours à notre marche. Nous abattions les obstacles que nous ne pouvions franchir. Grâce à Dieu, cependant, l'intérieur de la forêt ne tarda pas à s'éclaircir, et nous pûmes enfin nous voir et nous compter. Pas un de nous ne manquait à l'appel. « Eh bien, Diaz, dis-je à notre guide improvisé, où nous dirigeons-nous maintenant ?»«
Faisons d'abord une halte pour laisser respirer un peu les camarades, » me répondit-il à haute voix. « Nous verrons ensuite. »«
Comme vous voudrez, Diaz. » L'Espagnol roula alors deux cigarettes, m'en offrit une, et battant le briquet, me présenta du feu.
« J'ai à vous parler en secret. »«
Éloignez-vous un peu de vos hommes, » me dit-il rapidement, à voix basse, en allumant son tabac au mien. Quoique fort surpris par cette demande, j'eus assez de présence d'esprit pour n'en rien laisser paraître. Seulement je me hâtais de me rendre au désir de l'Espagnol. Mes hommes, fatigués, s'étant couchés par terre, je rejoignis aussitôt Diaz à 10 pas plus loin.
Prenez un air indifférent et promenez-vous à mes côtés en fumant votre cigarette, me dit-il toujours à voix basse.
C'est cela.
Monsieur, j'ai une mauvaise nouvelle à vous apprendre. Nous courons en grand danger.
Pas de marque d'étonnement, je vous en conjure.
On nous observe peut-être. Il ne faut pas décourager les amis.
Et quel est ce danger, Diaz ? Lui demandai-je en pensant qu'il pourrait bien être question du nègre Macao.
Un vilain danger, lieutenant.
Mais ne sentez-vous pas comme une odeur nauséabonde et fade, quoique pénétrante, que nous apporte le vent ?
Oui, en effet. Que signifie cette odeur ?
Elle nous annonce le danger dont je vous parle.
Et signifie que nous nous trouvons dans le voisinage de quelques serpents boa.
Ah, diable ! Et sont-ils grands et méchants, les serpents de Zanzibar ?
Leur longueur varie de 25 à 45 pieds.
Quoique, à vrai dire, ceux de la première dimension soient beaucoup plus communs que ceux de la seconde. Ceux-là, vus en liberté, ne laissent pas encore que de paraître d'une taille fort respectable.
Quant à être méchants, non, ils ne le sont pas. Seulement, quand ils ont faim, ils attaquent. Et ce n'est pas chose facile que de leur résister. Le premier être vivant, fût-ce même un éléphant, qu'il rencontre.
Voilà d'accablants renseignements, Diaz.
Que faire ?
Croyez-vous que le danger nous presse ? N'aurions-nous pas encore le temps de nous éloigner ?
Le temps nous manquerait.
Vous êtes averti, le reste vous regarde.
Quant à moi, si vous voulez me permettre de vous donner un conseil, je crois que la seule chose raisonnable serait, usant de l'autorité morale que vous donne votre position auprès de mes camarades, de les avertir avec adresse et de façon à ne pas affaiblir leur courage du danger auquel nous sommes exposés.
Oui, en effet, nous ne pouvons nous laisser surprendre. Je vais suivre votre conseil.
Cette odeur nauséabonde dont je viens de parler, qui d'après Diaz était un indice certain de la présence d'un serpent boa, ayant encore augmenté de force pendant que je causais avec l'Espagnol, je me décidai à aborder franchement la question et sans perdre de temps auprès de mes hommes.
« Hola, debout tout le monde, mes amis !» leur dis-je en élevant la voix. « L'ennemi approche !»
Quoique j'eusse pris soin d'affecter un certain air de gaieté en prononçant ces paroles, il paraît que malgré moi je laissais percer dans ma voix une partie de l'émotion qui m'agitait, car nos matelots se jetèrent tout aussitôt sur leurs fusils et se levèrent avec précipitation.
« Qu'est-ce qu'il y a donc, monsieur ?» me demandèrent quelques-uns d'entre eux.
« Oh, rien de bien effrayant, » répondis-je en souriant. « Il paraît qu'un serpent boa rôde dans les environs. Pourvu qu'il veuille bien nous rendre visite, je ne me plaindrai pas, car je vous avouerai, mes amis, que je n'ai encore jamais vu de près un de ces messieurs, et que je ne serais pas fâché de pouvoir chasser celui-ci. Seulement, j'ai dû vous avertir pour que vous vous teniez sur vos gardes. »
L'annonce de l'approche du monstre, ainsi mitigée par ma faim de gaieté, fut accueilli avec plus de curiosité que d'effroi par ma troupe. Toutefois, chacun vérifia si l'amorce de son fusil était en bon état.
« Lieutenant, me dit Diaz en s'approchant de nous, je crois qu'il arrive. N'entendez-vous pas ces craquements de branches ? Il ne doit plus être bien loin. »
L'Espagnol achevait à peine de prononcer ces paroles, que nous aperçûmes à environ 35 ou 40 pas devant nous, le monstre qui rampait à notre rencontre. Sa tête plate s'élevait d'à peu près 5 à 6 pieds au-dessus du sol. On devinait à une espèce d'ondulation des broussailles que son corps, que nous ne pouvions voir, caché comme il l'était par les hautes herbes, devait présenter un respectable développement. Le boa, soit qu'il nous eût aperçus, soit tout autre motif, s'arrêta et resta un moment immobile devant nous. On eût dit qu'avant de commencer le combat, Il voulait savoir à quoi s'en tenir sur nos forces.
« Tirez à la tête! Tirez à la tête !»
nous cria Diaz en mettant lui-même le monstre en joue. Nous allions obéir à cet ordre, qui répondait parfaitement à nos désirs, quand le reptile, comme s'il eût compris notre intention, disparut aussitôt dans les broussailles. Quoique nous fussions trop nombreux pour être effrayés, nous ne pouvions cependant nous défendre d'une certaine émotion bien naturelle, en pensant que le boa n'était plus guère qu'à quelques toises de nous. Sa disparition subite nous impressionna plus vivement que ne l'avait fait sa présence, car comme les broussailles où il s'était enfui s'étendaient jusqu'à quelques pas seulement de l'endroit où nous nous trouvions, nous étions sous l'appréhension de le voir apparaître tout à coup au milieu de nos rangs. Grâce à Dieu, cependant, il n'en fut rien, car à peine une minute s'était-elle écoulée que nous vîmes de nouveau le monstrueux reptile. Le corps à moitié roulé autour d'un arbre, il dardait vers nous sa langue fourchue et ouvrait sa bouche en nous montrant les deux doubles rangées de dents fines, blanches et aiguës qui la garnissaient. Cette fois, ayant pour nous l'expérience, nous ne lui donnâmes plus le temps de disparaître impunément, ou du moins sans courir de danger, car 5 ou 6 coups de fusil tirés à la hâte contre lui retentirent à la fois.
« Il est touché, bravo !» s'écria l'Espagnol Diaz. « Attention !»
En effet, des craquements affreux produits par les arbustes qu'il broyait sous le poids de son corps en se débattant, et une pluie de feuilles qu'il soulevait autour de lui, nous prouvèrent bientôt que l'Espagnol ne se trompait pas.
« Allons, mes amis, en avant » m'écriai-je. « Au contraire !» s'écria Diaz. « Que personne ne bouge !»«
Je vous demande pardon, monsieur, » continua l'Espagnol, « mais j'ai l'habitude de ces sortes de bêtes. Rien n'est aussi dangereux que de les approcher pendant leur furieuse agonie. Laissez-moi faire !»
Diaz, après avoir ainsi parlé, arma sa carabine et le corps plié en deux, s'éloigna presque en rampant dans la direction du monstre. 20 secondes plus tard, un coup de feu retentit.
« Vous pouvez venir à présent !» nous cria l'Espagnol. « La besogne est faite !»
Nous rejoignîmes aussitôt en courant l'intrépide chasseur. Le serpent boa, la tête percée d'une balle, gisait à ses pieds.
« Ma foi, à quoi bon dissimuler la vérité ? Et pourquoi n'avouerais-je pas que la vue du monstrueux reptile me causa, sinon un vif effroi, du moins une émotion profonde ?
Son corps, d'un jaune sale et terreux, bariolé de lignes noires, pouvait bien avoir de 25 à 27 pieds et était d'une grosseur proportionnée à sa longueur. Je compris alors la résistance insurmontable qu'avait opposée notre guide arabe à mes prières et à mes menaces, et je reconnus en moi-même qu'il n'avait pas tout à fait eu tort en refusant de nous accompagner dans la forêt. Notre chasse, pour ne pas dire notre combat, terminé, nous nous remîmes en route. Seulement, quels que fussent les obstacles que nous rencontrions, nous avions soin de nous tenir serrés les uns contre les autres et nous n'avancions qu'avec une extrême circonspection. Tous les arbres inclinés ou tordus que nous apercevions devant nous nous semblaient autant de serpents boa. La forêt reprenait à nos yeux son premier aspect fantastique. Quant au malheureux Ducasse, nous n'avions encore trouvé aucun indice qui pût nous mettre sur sa piste. Harassés de fatigue, nous nous déterminâmes, vers la fin de la journée, à faire une halte dans une espèce de clairière que nous trouvâmes. Cette clairière, produite par quelques trombes qui s'étaient abattues dans cet endroit de la forêt, pouvait avoir environ 500 pas de circonférence. Nous réunîmes en un tas toutes les branches mortes qui jonchaient le sol. Puis, après avoir mis le feu à ce bûcher improvisé, nous nous occupâmes de notre souper qui, grâce aux provisions dont nous étions munis, fut excellent et nous dédommagea des fatigues de la journée. Enfin, notre repas terminé, nous abattîmes à coups de hache quelques jeunes arbres que nous jetâmes sur notre bûcher afin de ne pas manquer de feu pendant la nuit. Puis, étant convenu que 5 d'entre nous veilleraient à tour de rôle, nous nous arrangeâmes du mieux que nous pûmes pour nous reposer jusqu'au lendemain matin. Je dormais depuis longtemps, lorsqu'une pression assez forte opérée sur mon bras me réveilla en sursaut. Il faisait une nuit profonde.
« Lieutenant !» me dit une voix que je reconnus pour être celle de l'Espagnol Diaz.
« Qu'y a-t-il » m'écriai-je en me mettant d'un bond sur mes pieds. « Un nouveau serpent boa ?»«
Non, lieutenant, mais regardez-la, devant nous. »«
C'est cela, n'apercevez-vous rien ?»«
Non, rien. »«
Attendez donc, on dirait comme deux lumières qui changent de place. »
« Ce que vous prenez pour des lumières, lieutenant, ce sont 2 yeux de tigre qui reluisent dans l'obscurité. »«
Ah, diable! Le jour des serpents, la nuit des tigres.
Le séjour de cette forêt manque définitivement de gaieté.
Eh bien, qu'est-ce qu'il nous veut, ce tigre ?»«
Je ne le lui ai pas demandé.
répondit l'Espagnol en souriant. « Tout ce que je puis vous dire, c'est que les camarades n'attendent plus qu'un signal de ma part pour faire feu dessus. Si vous voulez joindre la balle de votre carabine à cette décharge, lieutenant, dépêchez-vous. C'est pour vous procurer ce plaisir que je me suis permis de vous réveiller. Je vous remercie, Diaz, fort volontiers. » Je saisis aussitôt avec empressement mon arme et je visai le monstre jugé.
« Attention, y êtes-vous ? »
nous demanda presque aussitôt Diaz à voix basse.
« Oui, »
répondîmes-nous sur le même ton.
« Une, deux, trois, feu !»
reprit l'Espagnol. Nos 10 coups partirent avec une telle spontanéité qu'une seule détonation retentit.
« Victoire ! »
m'écriai-je peu après en entendant le tigre pousser des rugissements de douleur.
« Rechargeons nos armes, mes amis, et achevons ce rôdeur important !»
Je fus obéi avec un empressement que le lecteur concevra sans peine. Pendant 10 minutes, ce fut un feu roulant de peloton. Parbleu, s'il n'est pas mort, je consens à me colleter avec le plus gros boa de cette charmante forêt, qui nous vaut de si agréables surprises, m'écriai-je, ce laps de temps écoulé. Inutile, mes amis, d'user vos cartouches. Le tigre doit être réduit à l'état de tamis. Je retire alors un tison enflammé de notre foyer, et je le lançai de toutes mes forces dans la direction où la terrible bête nous était apparue. Les étincelles qui rejaillirent du tison lorsqu'il rebondit par terre nous permirent en effet d'entrevoir le tigre étendu au milieu d'une mare de sang et ne donnant plus signe de vie. Cette nouvelle réussite si complète et ce second triomphe si facile produisirent le meilleur effet sur les hommes de notre expédition. Non seulement ils oublièrent leur première panique, mais ils commencèrent même à prendre goût à la chose. Je suis persuadé que si je leur eusse proposé en ce moment de nous établir boucaniers, ma motion eût été acceptée avec enthousiasme et qu'ils eussent volontiers déserté leur joli corsaire pour s'adonner à la vie des bois. Si nous allions ramasser le gibier, s'écria un havrais nommé Petit Jean, qui, joignant aussitôt l'action à la parole, se mit à courir vers le tigre tué.
Petit Jean, reviens de suite !
Dit vivement Diaz. Hélas, l'Espagnol n'avait pas achevé de prononcer ces paroles qu'un cri plein d'angoisse, de douleur et d'effroi, un cri que je n'oublierai jamais, et que j'entends encore en écrivant ces lignes, un cri qui n'avait rien d'humain, retentit lamentable au milieu du silence de la nuit.
« À moi, un tigre !»«
Petit Jean n'est plus !» me dit tristement Diaz en nous voyant nous disposer à courir au secours du malheureux matelot.
« N'importe, faisons notre devoir. »
L'Espagnol, après avoir ainsi parlé, d'une main saisit un tison enflammé, de l'autre un pistolet armé, nous l'imitâmes. Quel triste spectacle s'offrit bientôt à notre vue. L'infortuné Petit Jean, étendu tout de son long sur le sol, avait, lorsque nous le rejoignîmes, le cou en sang et le crâne brisé. Diaz se pencha vers lui. Le tigre, d'un coup de patte, lui a défoncé le crâne, et d'un coup de dent lui a traversé le cou. Pauvre Petit Jean, il est bien abîmé. Heureusement qu'il n'a pas eu longtemps à souffrir. Sa mort a dû être instantanée.
« Mais je ne consens rien à cela, Diaz »
m'écriai-je. Qu'y a-t-il donc d'étonnant à ce que le mâle de la femelle ou la femelle du mâle que nous avons abattu, car les tigres vont ordinairement par couple, ait vengé la mort de sa compagne ou de son compagnon ? Me répondit l'Espagnol. « N'entendez-vous pas ces bruissements de feuilles et de branches, là, dans ce fourré qui se trouve devant nous ? C'est le tigre vainqueur. » L'idée que le terrible ennemi qui venait de nous donner une si sanglante preuve de sa force et de sa puissance pouvait d'un moment à l'autre se jeter sur nous, nous fit regagner précipitamment l'endroit éclairé par notre bûcher. Une fois en sûreté, nous dirigeâmes à tout hasard une 20aine de coups de fusil vers le lieu où nous supposions que la bête fauve devait se tenir à l'affût. J'ignore encore si nous fûmes assez heureux pour l'atteindre. La vue du cadavre défiguré du malheureux Petit Jean, unie à l'appréhension que nous causait la proximité du tigre qui avait tué notre pauvre camarade, nous empêcha de fermer les yeux jusqu'au lendemain matin. Les 2 heures qui suivirent cette affreuse catastrophe, ou pour être plus exact, le reste de la nuit, car les premiers rayons du jour ne tardèrent pas à dorer la cime des arbres de la forêt, nous restâmes sur le qui-vive, attentifs au moindre bruit, prêts à tout événement. Ce fut, quant à moi, avec un vif sentiment de reconnaissance envers Dieu que je saluai l'apparition du jour, car il est difficile de se faire une idée de l'influence qu'exerce la vue du soleil sur le courage, le moral et l'imagination de gens qui, pendant toute une nuit, ont été exposés aux angoisses produites par l'attente d'une surprise et d'un danger imminent. Après avoir creusé une fosse assez profonde, nous y déposâmes le cadavre de Petit Jean. Puis nous nous remîmes en route. Le plus grand silence régnait parmi notre petite troupe. Après une marche de plusieurs heures, je songeais enfin, voyant qu'aucun espoir ne nous restait de retrouver Ducasse, à faire rebrousser chemin à l'expédition et à retourner à bord, quand Diaz vint m'avertir qu'il venait de découvrir un sentier abandonné depuis longtemps, il est vrai, et presque effacé, mais qui prouvait que la partie de la forêt où nous nous trouvions avait déjà été explorée. Cette nouvelle me rendit un peu de courage, et j'ordonnai à l'Espagnol de suivre ce sentier. Après une nouvelle marche d'une heure, nous pûmes tous remarquer, tant le fait était visible, que la forêt s'éclaircissait de plus en plus. Nous avancions alors de front, sans avoir à combattre aucun de ces 1000 obstacles que la végétation nous avait présentés jusqu'alors avec tant de profusion. Évidemment, nous touchions à la plaine. En effet, nous ne tardâmes pas à apercevoir, à 100 pas devant nous, une vaste et fraîche prairie tout émaillée de fleurs. Nous nous y dirigeâmes avec empressement car nous avions hâte de quitter la forêt. « Regardez donc, Diaz !» criai-je à l'Espagnol, qui marchait en avant de moi. « Ne dirait-on pas que derrière ce bouquet de cocotiers s'élève un filet de fumée ?»« Vous ne vous trompez pas, monsieur, c'est bien de la fumée que vous voyez. »« Alors, dirigeons-nous de ce côté. » Après avoir suivi pendant encore à peu près 20 minutes le cours d'un limpide ruisseau qui serpentait le long de la prairie, nous atteignîmes enfin le bouquet de cocotiers. « Une habitation !» m'écriai-je. Je hâtai le pas, et je ne tardai pas à arriver, suivi de tout mon monde, devant une misérable hutte enfoncée sous le feuillage. Un arabe, fort âgé et tout déguenillé, fumait sa pipe devant la porte. Notre vue ne sembla ni le distraire de ses pensées, ni l'étonner, et il continua d'aspirer l'odorant arôme de son tabac avec la même gravité impassible. « As-tu entendu parler d'un malheureux chrétien perdu dans la forêt voisine ?» lui demandai-je. L'arabe, pour toute réponse, étendit lentement sa main gauche vers un petit enclos contigu à sa cabane et se remit à fumer sans prononcer une parole. « Que veut-il dire avec ce geste ?» demandai-je à Diaz. « Il doit signifier quelque chose. Je ne sais, mais un pressentiment me dit que nous touchons au dénouement de notre expédition. Allons visiter, monsieur, l'endroit que vient de nous désigner cet arabe. » Peut-être y trouverons-nous le mot de l'énigme que nous cherchons. Nous ne trouvâmes d'abord, en pénétrant dans l'enclos, aucun objet qui se rapportât à Ducasse et fût digne d'éveiller notre attention. Nous allions donc nous éloigner, lorsqu'il me sembla entendre comme une voix d'homme assez rapprochée. Je retournai vivement sur mes pas, et que l'on juge de la joie et de l'étonnement que j'éprouvais lorsque j'aperçus, couché au pied d'un cocotier et au bord d'une petite mare d'eau produite par les infiltrations de la rivière, le pauvre compagnon que nous avions si vainement cherché jusqu'alors. « Ducasse ! » m'écriai-je en me précipitant les bras ouverts à sa rencontre. « Que me voulez-vous ? » me demanda celui-ci en me regardant d'un œil fixe et un peu hagard. « Ce que je veux ? » répétai-je, stupéfait de l'insensibilité et de l'indifférence de cette réception à laquelle j'étais si loin de m'attendre. « Mais te sauver, mon cher Ducasse ! T'emmener de suite avec moi ! » « M'emmener ? » s'écria le matelot avec tous les signes du plus violent effroi. « Oh, je vous en conjure, laissez-moi ici. »« Mais es-tu donc fou, Ducasse ? Quoi ? On dirait que tu ne me reconnais pas. » Hélas, cette locution familière de « es-tu donc fou ?» dont je venais de me servir sans y attacher d'importance, était cependant une triste vérité. Ducasse, ainsi que ses sanglots, ses paroles incohérentes et ses gestes bizarres, ne me le prouvèrent bientôt que trop clairement. Il avait perdu la raison. Je ne puis rendre l'état affreux dans lequel se trouvait ce malheureux. Son corps, tamisé par les insectes et déchiré par les épines, ne présentait qu'une plaie. Sa maigreur était affreuse et faisait mal à voir. Quant à ses vêtements, il n'en restait que quelques lambeaux qui pendaient, semblables à des bouts de ficelle effrangés, le long de ses jambes et de ses bras. J'espérais que, le premier moment de la surprise passée, l'infortuné reviendrait à lui. Il n'en fut rien. Nous dûmes employer la force pour l'arracher du gazon où il se cramponnait avec ses ongles en ne cessant de crier. « Laissez-moi. Si je m'en vais d'ici, je ne retrouverai plus ailleurs des noix de coco à manger et de l'eau à boire. Laissez-moi. D'ailleurs, je suis dans le paradis. Je veux rester ici jusqu'au jour du jugement dernier. » À la suite d'une crise nerveuse produite par les efforts violents qu'il fit pour nous résister, Ducasse tomba dans un profond sommeil que nous respectâmes religieusement. À son réveil, qui n'eut lieu que vers la fin du jour, le pauvre garçon recouvra quelques lueurs fugitives de raison qui nous donnèrent un peu d'espoir. Il parut même à plusieurs reprises nous reconnaître. Nous nous empressâmes de lui administrer un cordial que nous avions emporté avec nous, et nous eûmes le bonheur de le voir se rendormir de nouveau. La nuit, car nous le veillâmes jusqu'au lendemain matin, se passa d'une façon assez calme. Quand il se réveilla, un peu après le lever du soleil, il était assez bien remis. Jamais je n'oublierai la scène attendrissante qui suivit son retour à la raison. Ce fut avec de douces larmes de bonheur qu'il nous embrassa tous les uns après les autres. « Ah, mes bons amis, nous dit-il, la première effusion de la joie passée, que j'ai souffert. Pas un mot, je vous en conjure, sur le passé. Ne m'interrogez pas. Plus tard, si vous l'exigez, je vous ferai le récit de mes aventures. Mais je sens qu'en ce moment, cette tâche serait au-dessus de mes forces. Rien qu'à la pensée des mots que j'ai endurés, je sens comme un voile qui s'étend sur mon intelligence. » Vers le milieu de la journée, Ducasse, nous ayant déclaré à plusieurs reprises qu'il se sentait assez de force pour nous suivre, car il lui tardait de s'éloigner des lieux où il avait passé de si terribles moments, nous nous remîmes en route pour retourner à bord. Je passerai sous silence les incidents de peu d'importance et les fatigues fort supportables qui remplirent notre voyage. Nous arrivâmes, après 3 jours de marche, à une lieue de la ville de Zanzibar, au point même d'où nous étions partis pour notre expédition. Nous y trouvâmes une embarcation du Tigre du Bengale qui nous attendait par ordre de cousinerie, et l'on nous apprit que la paix était faite entre le capitaine et le gouverneur. Ce dernier même, afin de ne pas laisser de traces du passé, avait invité son ex-ennemi à une pêche aux souffleurs qui devait avoir lieu dans le canal de Zanzibar. Cousinerie avait été assez bon dans cette circonstance pour songer à son ancien lieutenant. Il avait donné l'ordre que l'on mît, si tel était mon désir, une embarcation à mes ordres afin que je pusse le rejoindre, comme d'assister aux réparations des avaries reçues par le Tigre du Bengale dans son dernier combat n'était pas une chose bien récréative et intéressante pour moi, je m'empressai de mettre à profit la complaisance du capitaine en usant de l'embarcation dont je pouvais disposer.